Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Par les temps qui courent, c'est vendredi, c'est la dernière de la semaine, une heure avec un ou une artiste tous les soirs. Ce soir, François Chéniaud.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es
ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec François Chéniaud.
Comme la nature endormie se défroisse de lumière et de rosée, les danseuses et danseurs de la compagnie Carte Blanche que vous chorégraphiez pour le spectacle Soufflette sont des fleurs qui s'ouvrent. Le chant et la marche sont leur premier réveil, viendront ensuite le martèlement du sol entre les stompes et les grands interprètes de flamenco. Ce spectacle procède par vision penchée, que tout nourrit, le son, j'en parlais, mais aussi les costumes, la lumière et la danse, bien sûr. Des visions penchées comme défoncées qui se termineraient sur une version ralentie et chorale de Killing Me Softly. Une douce promenade chez les morts et les vivants, colonie de bonnes sœurs dans la pénombre, troupeau de brebis à l'aube, Narcisse sur son reflet ou nymphe proche de l'extase. Soufflette est programmée dans le cadre du riche festival des rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. C'est à la MC 93 de Bobigny les 12 et 13 juin prochains. Bonsoir François Chéniaud.
Bonsoir.
On pourra aussi voir Soufflette le 18 novembre 2019 au CCN de Caen et sûrement à plein d'autres endroits et à plein d'autres moments. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Quelques mots sur la compagnie Carte Blanche, François Chéniaud, peut-être qui c'est et à quel endroit vous vous rencontrez pour travailler sur cette pièce-là?
Carte Blanche, on n'a pas vraiment d'équivalent en France. C'est la compagnie nationale en fait norvégienne qui est basée à Bergen. Et ils sont une quinzaine de danseurs de profils divers. Donc c'est pas comme les ballets français où il y a où si tout le monde est issu d'une même école. Là, c'est une compagnie internationale avec des profils de formation initiale très divers et aussi de physicalité, d'identité, avec un spectre dont on a peu l'équivalent dans les compagnies instituées ici.
À la fois du côté décor que de la formation.
Absolument.
Quand vous dites un spectre, c'est vraiment quelque chose de très hétérogène.
C'est-à-dire que c'est des danseurs très bien formés, avec une formation un peu de base, je dirais. Mais chacun va avoir des spécificités, des savoir-faire, et aussi beaucoup aussi ont leur propre travail, donc ont un rapport à la composition et à une vision artistique qui est déjà très très affirmée, très énoncée. Et aussi la chose qui m'a beaucoup frappée et qui a beaucoup organisé d'une certaine manière le travail, c'est que ce ballet est donc basé à Bergen en Norvège et donc fonctionne selon le droit du travail norvégien qui est très protecteur en fait, très très protecteur des salariés, et si bien que les journées de travail sont très courtes. Et à l'inverse, j'ai déjà travaillé avec d'autres compagnies de répertoire en France où on a aussi des services très courts avec les danseurs, mais parce qu'ils enchaînent énormément de répétitions. Là, j'ai eu la chance de travailler presque 3 mois exclusivement sur ce projet avec eux.
Avec des gens hyper dispo,
mais
hyper en forme.
Voilà, très en forme avec ces conditions de travail qui, en fait, sont perturbantes, surtout pour moi qui ai l'habitude de rester 12 heures, 13 heures dans le studio et de m'acérer un peu dans les questions ou dans les situations. Mais au final, j'ai trouvé ça très sain et très très inspirant de travailler selon ce contexte de travail très réglementé en un sens, mais qui d'une part permettait d'avoir des relations de travail très fluides parce qu'elles n'avaient pas le temps de s'enquister dans une macération un peu anxiogène, et d'autre part parce que le temps de travail demeurant court, j'avais à peu près 4-5 heures par jour, c'est la journée complète.
Échauffement compris ?
Non. Mais du coup, ça m'a obligé à beaucoup préparer au jour le jour et aussi d'être dans un rapport à la composition plus, peut-être plus direct et plus articulé que ce que je peux faire quand je travaille moi-même, quand je suis au plateau ou quand je suis dans des processus où on se laisse la possibilité de se noyer beaucoup plus. Alors que là aussi, c'était un groupe que je connaissais pas. J'étais un artiste invité un peu. Et cette configuration m'a semblé hyper stimulante et aussi apaisante de pouvoir... Parce que 5 heures de répète, c'est concevable de préparer 5 heures. On peut former un plan, alors que si on partage 13 heures de studio, en un sens, il y a beaucoup de zones de doute et de vision inarticulée qu'on doit partager beaucoup plus et qui peuvent des fois... Ça peut être plus dur des fois ensuite de récupérer.
C'est super intéressant parce que finalement on parle assez peu des emplois du temps des danseurs ou des chorégraphes ou des danseuses quand on, par exemple sur ce plateau-là, quand on interroge sur les créations. Et en fait ça enseigne plein de choses sur le monde du travail de manière générale ou sur le monde de la création artistique. Aussi bien travailler un peu moins, peut-être c'est travailler mieux quoi.
Là ils ont des conditions très très privilégiées en un sens et je connais peu de danseurs qui ont ce statut-là, ces conditions de salaire et de protection. Et c'est vrai que le résultat que j'ai vu dans le travail, c'est une disponibilité extrême. Et en même temps, ça m'a beaucoup responsabilisé pour utiliser au maximum ce temps. Et du coup, l'honorer en un sens.
Et probablement eux aussi ou elles aussi. Ça responsabilise beaucoup d'avoir un temps de travail tout le monde est réduit. Très J'adorerais que tout le monde s'inspire de ce qu'on vient de dire là pour commencer cette émission. François Chéniaud. Est-ce que ça veut dire qu'au bout du compte, vous êtes arrivé avec un travail qui était plus construit? Est-ce que ça a aussi influencé votre manière d'écrire au plateau?
Ça a beaucoup influencé aussi parce que c'était la première fois que je me retrouvais face à cette situation de travailler avec un groupe de cette ampleur, 14 danseurs, pour imaginer une pièce de cette durée, une heure, et en étant la seule personne, entre guillemets, responsable du chemin vers où on va. Et donc c'était une situation très différente de celle que je vis depuis quelques années où je suis plutôt la seule personne à danser et dans des projets collaboratifs. Et donc là, le fait que ça s'extrait de mon corps et aussi que je me retrouve en même temps assez seul face à moi-même, c'est sûr que ça a beaucoup organisé la manière de construire. Et du coup, le processus a commencé par des pratiques très très spécifiques, très rigoureuses et qui occupent toute la concentration, aussi bien dans l'apprentissage de chants polyphoniques pour un groupe de danseurs qui sont pas chanteurs, donc ça suppose une concentration extrême. Et ensuite, on a commencé le processus par l'apprentissage justement de rythme et de polyrythmie, qui même pour des danseurs, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est une concentration, une prise de tête. Mais j'ai beaucoup aimé que ça nous a rassemblés en un sens, tout de suite sur un endroit de concentration et d'effort, qui permettait de tenir les inquiétudes un peu quiètes, un peu silencieuses, parce qu'on était tous occupés à développer un savoir-faire et qui ensuite... Pour moi, au final, et même le cœur de la pièce, c'est comment en quelques mois on réussit à construire ces expressions multiples qui émanent de ces corps et ce qui n'étaient pas des langages qu'ils connaissaient à l'origine.
Je suis entre la nonne et la pute. Je vends mon corps, je vends mon... Je monte sur scène, Je m'adonne à des milliers de personnes et en même temps, je suis très attirée dans mon imaginaire, hein, une espèce de vide recluse, un absolu. C'est les lieux comme ça où longtemps des gens ont vécu dans le recueillement me fascinent, mais tous ne m'attirent pas.
Thank you.
J'imagine que ce sont les pieds des danseurs et des danseuses sur le plancher qu'on entend, on dirait presque de la pluie. J'en reviens à la métaphore du début que j'utilisais comme l'aube, la manière dont les choses se défroissent. Et c'est vraiment l'impression persistante que j'ai eue au visionnage premier et au deuxième visionnage de votre pièce, François Chéniaud. Un truc qui se réveille, quoi. Alors je sais pas si c'est des humains, si c'est des fleurs, si c'est des animaux, mais vraiment du défroissement auquel participerait en premier lieu le chant. Comment vous avez travaillé ces chants polyphoniques ?
En fait, on a travaillé, c'est un peu le point de départ du projet, c'était l'envie de faire une pièce où les danseurs seraient responsables de toutes leurs expressions et de toutes leurs transformations, un peu comme s'ils étaient autonomes. Et donc, ils arrivent avec tout ce dont ils auront besoin pour passer d'un état à un autre, puis encore un autre. Et tout en produisant eux-mêmes la musique qui serait la musique de ces transformations ou la bande-son de leur périple. Et pour ça, j'ai travaillé avec un musicien, compositeur norvégien, Jostein Gundersen, avec lequel on a... En fait, je voulais absolument proposer aux danseurs de chanter des polyphonies. Moi, je chante très souvent dans mes spectacles et c'est quelque chose qui me passionne d'imaginer un corps qui puisse à la fois créer du mouvement, de la vitesse, des formes, mais aussi du son et donc aussi du sens et aussi des époques, aussi des lieux. Mais pour l'instant, ça a beaucoup été, à part quelques exceptions, ça a beaucoup été une pratique soliste, solitaire. Et j'ai ce rêve persistant d'inviter plus de monde dans ce défi un peu. Et du coup, c'est pour ça que la polyphonie m'intéresse beaucoup comme un moment comme la possibilité, déjà au niveau vocal, de constituer un groupe. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec Jostein. Je lui ai proposé de travailler sur les premières polyphonies notées en Europe, qui sont liées à l'école de Notre-Dame, qui est d'actualité récente, au XIIe, XIIIe siècle, où jusque-là, la notation musicale européenne notait la monodie, donc une seule ligne de chant, qui pouvait être chantée par plusieurs personnes en chœur, notamment dans les monastères, mais en tout cas où c'est une seule ligne de chant, comme un unisson. Et je trouve passionnant le moment où, par notamment l'invention des portées, eh ben on a les outils nécessaires pour coucher sur le papier le fantasme d'une architecture de groupe où on pourrait être plusieurs sans être à l'unisson. Donc, en un sens, être ensemble sans faire la même chose. Et qui est une question récurrente dans toute la danse moderne et toute la danse contemporaine de plateau. En un sens, qu'est-ce que c'est que représenter une communauté sur scène et à quel destin elle se confronte entre celui de la hiérarchie, celui de l'unisson, celui du chaos. Et en un sens, ces premières polyphonies, elles me semblaient nous donner une version possible ou une piste. Et donc avec Jostein, on a travaillé sur comment on passe d'une voix, donc d'une ligne mélodique, par quel procédé on rajoute les autres voix. Est-ce que c'est du miroir, est-ce que c'est de
l'addition,
du
décalage,
voilà. Et il a lui-même étant très médiéviste, connaissant bien ses procédés de composition, il a utilisé ces procédés mais en les appliquant à des textes ou à des motifs mélodiques ou harmoniques issus principalement de chansons de Bob Marley et des Fugees. Donc aussi de textes en un sens assez spirituel, mais d'une spiritualité de nos jours, non européenne, et aussi ayant atteint une espèce d'audience pop. Et donc ça a été le point de départ pour créer les chants, mais c'est vrai aussi du coup créer... C'est ce qui crée le monde dans lequel ces danseurs
vont lutter. Ouais, quand même. Vous parliez de lieux, François Chéniaud, et je trouve que c'est vraiment fou à quel point justement ces chants appellent des lieux et nous permettent de regarder la première obscurité dans laquelle se déroule la pièce, les espèces d'alcôves qu'on voit apparaître, qui sont à la fois des espèces de cabines de douche, de piscines municipales, mais aussi des potentielle chambre, en effet, de moines ou de nonnes. On entendait la chanteuse Camille, au micro de Lorraine Bastide, dire que finalement sa pratique du spectacle, du chant et de la danse, elle la vit comme un grand écart entre la prostitution et la vie monastique, avec une attirance particulière pour la dernière, pour la vie monastique. Est-ce que cet imaginaire-là a plané, alors on va dire au moins sur une grosse première partie de votre création Soufflette ?
L'univers monastique, oui, de manière indirecte, parce que beaucoup de la musique qu'on garde de cette époque est liée à l'univers
villa.
Monastique. Mmh. Mais ce qui ne veut pas dire que les seules musiques existantes étaient des musiques liées à la spiritualité des couvents. Mais évidemment, beaucoup des archives et des sources sont liées à ce monde-là, donc indirectement, je m'y suis intéressé beaucoup. Et par ailleurs, je viens juste de créer un projet autour de Hildegard de Bingen, qui est une abbesse du XIIe siècle sur les rives du Rhin en Allemagne. Et donc aussi, via ce projet, je me suis beaucoup plongé dans ce monde que, oui, qui est évidemment, qui est très fascinant, qui moi me fascine beaucoup comme danseur aussi, par le rapport aux archives qu'il a. Et en un sens, c'est aussi comme ça que j'arrive à la musique, c'est que la musique, notamment liée à cause de son rapport à l'Église et à l'écrit, à l'autorité, la musique a très vite noué un rapport à l'écriture et donc à son archivage beaucoup plus fort que la danse. Et c'est pour ça presque que je me suis intéressé à Hildegard et aux chants polyphoniques du XIIe, XIIIe siècle. C'est comme si je voyais dans ces partitions des indices de comment des corps peuvent se mettre ensemble ou des chemins d'air et de son vraiment très très.
Vous voudriez dire que c'est faute d'avoir des traces de danse de cette époque-là.
Ouais. Mmh. Enfin, oui et non, parce qu'en même temps ça correspond à une passion et un intérêt, mais je crois que pour moi c'est vraiment par ce détour-là que ça m'intéresse. C'est pour la puissance d'évocation qu'a le chant et son rapport à l'histoire, en tout cas dans l'histoire européenne.
Moi, j'ai commencé très tôt avec des corsets. Donc un corset pour moi, c'est pas une entrave. Un corset, c'est un tuteur respiratoire, vocal. C'est une verticalité non pas infligée, mais qui dessine quelque chose, pas seulement à l'extérieur, enfin pas seulement dans le contour, dans les contours, mais viscéralement. Enfin, il y a quelque chose. C'est comme si les organes se rapprochent les uns des autres. Qu'il y avait une espèce. Ça donne une quelque chose à la fois de resserré, de compact et de vital, et moi j'ai toujours aimé porter un corset.
Le corset comme une possible réorganisation des entrailles, c'est Isabelle Adjani au micro de Laura Adler. En 2015, François Chéniaud, peut-être pour vous emmener sur la piste des costumes, pour cette pièce-là, Soufflette, et pour votre travail d'interprète, de chorégraphe, de créateur de manière générale, alors partons de Soufflette. Et de la manière dont la métamorphose, la production des visions passe aussi par le costume. Vous avez travaillé comment sur ce point-là ?
Ça a été le deuxième point de départ en un sens avec la musique. Ensuite, ça a été les costumes que j'ai travaillé avec Romain Brault, qui est un artiste, performeur et toutes sortes d'autres disciplines, mais qui est aussi couturier, avec lequel j'ai fait beaucoup de projets. Et pour moi, en fait, le costume, il est indissociable de la danse. Si on imagine que la danse, c'est un art de l'invention de soi, de l'invention d'un corps. En un sens, le costume, il réorganise les organes. Et réorganiser les organes ou les entrailles, pour moi, c'est le début de la danse. C'est-à-dire que la danse, c'est pas juste agencer des frappes de pieds et des mouvements de bras. C'est soit se fantasmer, soit s'inventer, soit documenter un corps. Et après, il y a toutes sortes de
d'entrées possibles.
Mais pour moi, le costume, il est la première danse, en fait, parce que effectivement, je rêve d'ailleurs de faire un prochain spectacle avec des corsets, mais pas du tout dans une esthétique libertine ou un peu de cocotte, mais plutôt justement pour la possibilité de ces textures que ça viendrait rigidifier, amollir, re-rythmer en un sens l'alternance du mou et du dur dans le corps. Et là, pour Soufflette, j'avais un peu des trois visions. Une première qui serait de danser avec des éléments les plus lourds, chauds, disons les moins propices à danser, qui seraient à la fois très contraignants, difficiles à tenir, qui seraient à la fois, et donc au final c'est des très grands tricots. Certaines pièces font 10 mètres, c'est des énormes tricots, tricotés avec une énorme maille, et qui m'intéressait à la fois parce qu'on voit que c'est une activité humaine qui a été nécessaire pour le faire, donc on pressent une communauté plus importante que celle qui est au plateau, et en même temps c'est aussi, ça produit une sorte de figure un peu délabrée, à la fois une sorte de haillon, mais en même temps très produit, parce qu'on voit bien que c'est pas
du déchet, c'est vraiment c'est pas la du construction déchet, au contraire. Ouais.
Et ça, c'était donc cette première, une première vision, un premier point de départ. Ensuite, après, lors des métamorphoses, c'est un peu inversé. J'avais envie qu'à l'inverse de ces corps très disparus, en un sens sous l'effort, sous la contrainte, et apparaissent aussi plus liés à l'historique de l'académique en danse, des tuniques très près du corps. Et donc là, avec Romain, on a imaginé une série de body, un peu de juste au corps, mais qui sont entièrement brodés. Donc là aussi, il y a une espèce de... on sent en fait beaucoup de monde, beaucoup d'âme autour de ces costumes. Et donc il y a chaque juste au corps, qui sont tous différents, les 14 sont différents, sont brodés dans l'uminure extraite de manuscrits médiévaux. Et ensuite, la métamorphose s'accomplit où on quitte presque... Et en un sens, le registre des tricots était un registre très organique, très terrestre. Les corps aussi sont très proches du sol, très pesants, très articulés, mais en même temps très groupal, pour ensuite se transformer en une danse beaucoup plus fluide, distincte, en un sens aussi... qui articule des voix individuelles, et la métamorphose s'accomplit où les danseurs reviennent peu à peu et forment des groupements de corps qui forment comme des bouquets géants, un peu comme des grands ikebana. Les danseurs se sont couverts de fleurs dans des parures parfois assez vertigineuses, assez amples, et là ils deviennent à la fois des humains très parés, mais aussi comme des esprits un peu, des esprits floraux.
Alors, on reviendra sur l'ikebana et la constitution de ces bouquets, et l'appel aussi à la représentation de la nature, le vivant et le mort. Mais puisque vous utilisez le mot vision, et que je l'utilisais aussi en introduction, et qu'il y a ce titre quand même, qui nous fait penser que ça peut être un souffle qui circule, le souffle de la vie, de l'histoire, mais aussi juste ce qu'on fait avec un joint dans la bouche, en le tenant dans ses mains et en soufflant sur un joint à l'envers, et du coup en faisant circuler de la fumée pleine de THC dans la bouche de l'autre. Ça veut dire aussi que peut-être il y a des visions qui circulent, que c'est des visions qui sont altérées par rapport au réel. Comment est-ce que vous avez choisi ce mot soufflette ?
Par rapport à soufflette, en fait, c'est vrai que j'aimais beaucoup l'idée qu'il y ait cette sensation que c'est... On ne sache pas trop qui fait la soufflette à qui, mais ce serait un peu qu'est-ce qui se passerait si on soufflait la fumée d'un joint dans la bouche, par exemple, oui, pourquoi pas d'une nonne du XIIe siècle ou d'un chantre de l'école de Notre-Dame à Paris au XIIIe siècle. Qu'est-ce qui se passerait? Ou l'inverse, si c'était le chanoine de tel monastère qui viendrait souffler une fumée effectivement un peu hallucinogène, ou en tout cas qui peut donner un high, qui peut altérer l'état de pensée, qui peut créer de l'euphorie, c'est-à-dire dans la bouche d'un danseur de carte blanche. C'était aussi pour avoir un rapport à... Parce qu'à la fois, on a un rapport très précis et très rigoureux par rapport au procédé de composition, mais c'était aussi pour en révéler le potentiel enivrant, extatique...
Ludique aussi, parfois.
Ludique, pour avoir un rapport à ces archives et à cette histoire qui soit aussi enivrant, excitant, que peut l'être l'usage récréatif de telle ou telle drogue, ou peu importe, et aussi il y avait une sensation très très sensuelle de la soufflette, qui est aussi un geste de confiance, j'imagine, et d'intimité, et j'avais envie d'utiliser un peu cet état d'esprit, cet état de lèvres presque, cet état de douceur et de mollesse et de vulnérabilité et de désir et de... par rapport à des matériaux qu'on peut souvent enfermer, soit dans une approche très...
Des archives médiévales, vous voulez dire?
Ouais, par exemple. Ou de tout, ouais, des archives médiévales, la musique ancienne. Ouais.
Je pense que c'est assez révélateur, où ça se révèle beaucoup dans le deuxième tableau, François Chéniaud. C'est dans ce que vous décrivez plus distincte, plus révélant des singularités. Et en fait, cette manière dont les danseurs et les danseuses viennent à nous comme ça, un peu plus connaissables, elle est très... Elle est joueuse, quoi. C'est vraiment un moment, je sais pas, j'ai aussi l'image, ça n'a rien à voir, on change complètement de décor, mais d'une soirée où ça commence à se détendre et les gens vont vraiment danser pour leur plaisir, pour ce qu'ils sont, ils vont éventuellement aller se rouler des pelles dans le couloir. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'une révélation joyeuse dans la seconde partie où on retrouve ce que vous disiez de la compagnie, à savoir des êtres dont on sent que ils ont aussi leur propre rapport très très particulier à la danse. Mmh. Alors comment vous les avez chorégraphiés? On se demande en regardant la pièce, est-ce que c'est votre danse? Est-ce que c'est un peu les leurs?
Donc on a commencé de manière très laborieuse à apprendre des rythmes de pas. Et qui, même pour des danseurs, en fait, c'est vraiment un effort énorme. Et notamment dans cette compagnie où, en fait, ils ont des sublimes qualités de mouvement. Mais où, depuis plusieurs années, en tout cas, ils étaient pas du tout dans des registres de création où les artistes invités venaient leur proposer un module rythmique ou un module chorégraphique. C'est-à-dire, ça partait plus sur...
leurs propres impro.
Sur leurs propres improvisations. Et c'est vrai que, à l'inverse, j'avais vraiment envie d'apporter des matières très spécifiques, un peu corsetante, si on veut filer la métaphore du corset, parce que elle laisse au début très très peu d'espace pour réinterpréter ou pour moduler. Mais à la fois ça a créé de la cohésion, ça a créé l'état d'esprit, et ensuite ça a beaucoup organisé les danses, parce que ensuite les danseurs ont effectivement créé eux-mêmes des propositions, mais qui sont souvent, par exemple, ce qu'on a entendu là, le premier chant qu'on a entendu, c'est le chant qui a été inventé à partir, la première chose qu'on a inventé, c'est le rythme des pieds. De ce rythme des pieds, on a inventé une mélodie à deux voix, qui est celle qu'on entend. Et de ce rythme des pieds, en gardant toujours ce même rythme, les danseurs ont inventé le corps qui viendrait coiffer, en un sens, ses pieds martelants. Donc ça a été une des procédures, et l'autre procédure a été beaucoup liée aux contraintes extrêmes, en un sens, que je leur ai proposé de gérer leur propre transformation, donc à gérer des costumes lourds. Dans la troisième partie, ils sont parfois sur des chaussures très très
plateforme hyper haute,
plateforme très haute, ou des costumes qui les empêchent de voir, donc qui altèrent d'une certaine manière la motricité et qui en même temps produisent un imaginaire très fort, et pour celui qui le regarde et pour celui qui porte le costume. Et ça a été une autre des entrées, une autre des moyens d'accès. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans le costume, c'est que ça invente un corps, mais en un sens que les contraintes que ça peut générer, c'est aussi des contraintes positives. Parce que quand on danse avec un costume qui pèse 25 kilos de laine suffocante, ben oui, bien sûr, le corps devient plus rouge, le corps s'échauffe, mais il y a aussi un rapport au sol qui est différent, un rapport à la verticale qui est différent, le haut du corps ploie presque tellement c'est lourd à tenir sur les épaules. Et c'est comme ça que peu à peu, on a inventé un corps. Et on a aussi beaucoup regardé quand même de différentes statuaires, des éléments assez précis, de différentes représentations de musiciens ou de jongleurs, qui ont permis aussi de définir certains types de silhouettes, certaines... presque une posture, comment le bassin se positionne par rapport à la cage thoracique, et ça, il y a toute une évolution dans la pièce, en fait.
Vous vous souvenez, vous, d'un costume qui aurait vraiment permis une invention de votre corps très surprenante? Vraiment, un jour, François Chéniaud, ou un costume, vous lui supposiez quelques caractéristiques, vous pensez qu'il allait vous emmener dans un endroit, et hop, vous l'enfilez, et là, vous vous dites, ok, vraiment, je suis pas du tout là où je croyais être, c'est très étonnant.
Ah, qui m'aurait surpris énormément. Peut-être que la surprise la plus grande, c'est celle qu'on a eue avec Cecilia Bengolea dans Sylphide, où c'est pas vraiment un costume, mais c'est comme un costume, on danse dans des enveloppes de latex sous vide. Et au départ...
C'est vraiment une des premières pièces,
quand même.
C'est
une pièce, ouais, de 2009. Mais au départ, on pensait pas que on pourrait danser dedans. On pensait que c'était juste une étape transitoire pour un peu revivre une situation d'isolation qui pourrait être comparable à celle des moines, se mettre hors du monde pendant 2 heures et comment on en serait en sortant. Mais en fait, en le portant, en fait, on s'est rendu compte que cette enveloppe de latex, elle révélait une danse interne, une danse des organes, une danse de la pulsation du sang, une danse un niveau micro qu'on n'aurait jamais imaginé sans porter ça. Mais sinon, disons que je suis souvent surpris par les costumes, mais j'essaye d'imaginer des costumes en espérant qu'ils vont induire telle ou telle chose. Après, souvent, ce que je préfère, c'est quand c'est le costume qui me chorégraphie, c'est-à-dire qu'au final, c'est le costume qui détermine le registre des possibles et des impossibles. Et c'est souvent le cas, notamment avec les chaussures. C'est pour ça que j'avais très envie aussi qu'à la fin de la pièce, certains danseurs puissent s'élever, puissent être sur des plateformes très hautes. Parce que, notamment une dernière pièce que j'ai faite sur Roman de Sassine Certos avec Nino Lenné, j'ai découvert les échasses après avoir beaucoup pratiqué les pointes. Et pour moi, c'est aussi le costume, il commence beaucoup avec ce qu'on porte au pied. Et si on est pieds nus en pointe ou en échasse, en fait, tout le domaine visitable est déjà très, très déterminé, en fait, par ce dont on se chausse. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec François Chéniaud.
Vous savez, en Inde, on a ce dieu Shiva, qui est le seigneur de la danse, c'est un dieu dansant. C'est aussi le dieu de la destruction. Et je trouve qu'il incarne vraiment cette vision de la réalité, qui est celle d'une réalité qui bouge, qui est en vibration. En fait, la nature de la réalité, comme le dit d'ailleurs la physique quantique aussi, c'est qu'au cœur de tout, il y a une vibration première, fondamentale, universelle. Et c'est ça le fondement de l'existence, quelque part. Donc, dans la pensée indienne, le dieu Shiva incarne cette connaissance, en fait, de dire que le dieu qui danse est celui qui soutient l'univers. Et s'il s'arrête de danser, s'il n'y a plus de vibration et plus de mouvement, eh bien, il n'y a plus d'existence. Donc, le mouvement et la danse, si on regarde l'univers autour de nous, tout est en mouvement, que ce soit les planètes, les galaxies, les atomes dans notre corps, la nature autour de nous. Donc, on est en danse perpétuelle.
On entend Chantala Shivalingappa en février 2019, ici, à Par les temps qui courent, François Chéniaud, et dessous, elle ou avec elle, le son des pieds qui frappent le sol dans la pièce soufflette qu'on évoque avec vous. Ce qui est intéressant dans ce que dit Chantala Shivalingappa, c'est la manière dont l'enseignement premier qu'elle a reçu de la danse, qui s'est complexifié, qui s'est diversifié en tout cas, est très imbriqué avec une pensée du monde, une pensée spirituelle du monde, quoi. Et je me demandais ce qu'il en était pour vous, quel avait été votre parcours, parce qu'à regarder Soufflette, on se rend bien compte qu'il y a quand même quelque chose aujourd'hui dans le travail que vous faites qui relèverait presque de ça, de la danse comme une pensée globale du monde et des êtres. Est-ce que c'était le cas dès le départ ?
En fait, une pensée globale du monde et des êtres, je sais pas, mais en tout cas le rêve d'une expression globale,
ouais.
Ça c'est sûr, et je pense que les activités auxquelles les danseurs s'adonnent dans Soufflette, et notamment qui est beaucoup de le martèlement du sol, et qui est beaucoup de chants polyphoniques, c'est aussi des activités qui ont, même pour nos yeux parisiens de 2019...
Ou français,
et une connotation très spirituelle. Et bien sûr, la danse, beaucoup d'histoires de la danse ont commencé par des marches et par des martèlements de pieds. Et donc, nous, on a travaillé sur les rythmes que les danseurs martèlent. En un sens, c'est aussi des rythmes issus de partitions du XIIe siècle, au moment où on découvre le jeu polyrythmique aussi. Et donc, mais ça peut aussi bien évoquer des frappes de flamenco. Et les frappes de flamenco évoquent aussi bien les frappes de Bharatanatyam ou de danse indienne. Et ça m'intéressait beaucoup dans ce travail assez, assez exigeant, mais en même temps très simple de danse où il s'agit juste de
frapper le sol.
C'est-à-dire que, ça m'intéressait toutes ces résonances, en fait. Et le fait de chanter, de danser en même temps, je sais pas ce que ça raconte de la vision globale du monde, mais en tout cas, c'est vrai que ça présente un corps qui est très très multidimensionnel, parce qu'à la fois il produit du son percussif, à la fois il produit de la vitesse, du mouvement, des formes seules et à plusieurs, aussi des images avec les costumes, et aussi un son chanté, donc un son immatériel, un son qui a une dimension spirituelle évidente et communautaire parce qu'elle est polyphonique.
Et produite à plusieurs. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez senti le cheminement, le fait que la danse soit un outil, alors c'est évidemment des très gros mots, hein, la pensée globale du monde et des êtres, mais quand même un outil pour se penser, pour penser ce qu'on appelle le vivant, la nature, pour penser ce que c'est que d'être ensemble. Est-ce que ça a été... vous avez compris que ça se faisait petit à petit pour vous? Parce que vous commencez la danse très tôt et j'imagine qu'au tout début, c'est pas ça.
Moi, j'ai étudié la danse dans les contextes académiques français où, pour le coup, la danse est complètement déconnectée.
Du reste de la pensée humaine, quand même.
Du reste de la pensée humaine, du reste du monde et aussi du reste de ces traditions chorégraphiques. C'est-à-dire que dans les conservatoires, on commence pas la danse en martelant du pied. On commence la danse en apprenant des positions, en disciplinant le corps pour lui dire que pour danser, il faut être tout droit. C'est-à-dire que on apprend des savoir-faire très, très valables, mais très, qui sont liés à une histoire qui est pour le coup complètement tue, maintenue silencieuse. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des pièces, ça m'intéresse
comme réépaissir ça. C'est pour ça que j'utilise le mot global qui est un peu couillon, mais c'est comme si vous aviez un très fort apprentissage de techniques qui ont une histoire mais qui est têtue, et qu'au fur et à mesure des pièces, mais d'ailleurs parfois c'est des histoires non européennes, des pratiques de danse très éloignées de vous, ça devenait de plus en plus épais.
Oui, bien sûr, c'est que c'est évident pour moi que la danse, mais même n'importe quelle forme d'expression artistique, elle témoigne volontairement et involontairement de l'époque qui lui a donné vie. Et c'est sûr que le détour par l'histoire permet de le voir beaucoup plus clairement quand on se confronte à des expressions dont on voit bien qu'elles étaient rendues possibles par un cadre de pensée et un cadre imaginaire qui est radicalement différent du nôtre. On se rend bien compte par ricochet que nous-mêmes, nos propres visions, nos propres expressions, nos propres rêves sont aussi déterminés par l'époque et les contextes et les positions aussi depuis lesquelles on s'exprime.
Je pense à une pièce, vous étiez en duo là aussi avec Cecilia Bengolea, où vous étiez allé plutôt regarder du côté des États-Unis et de certaines danses très spécifiques. Et ces danses-là, elles nous disaient aussi beaucoup de la position des Noirs américains aux États-Unis, de certaines expressions, de la manière dont en fait la danse est tout sauf isolée du reste du monde et du reste de la vie en fait. Et ça, c'est comme si François Chéniaud, petit à petit, ça grandissait, quoi.
Moi, c'est sûr, c'est quelque chose qui me semble à la fois pourtant indispensable de savoir à la fois pour imaginer des œuvres pertinentes, mais aussi savoir pour pas s'aveugler soi-même, savoir aussi depuis où même on
se situe.
On se situe. Et ouais.
Ça veut dire qu'il y a aussi des choses à désapprendre? Ou c'est pas exactement de cet ordre-là?
Moi, je dirais pas que c'est à désapprendre, c'est plutôt empiler les apprentissages qui m'intéressent. Et ce qui s'est passé aussi beaucoup avec les danseurs de Carte Blanche pour Soufflette, c'est que à aucun moment il s'est agi de désapprendre quoi que ce soit. Il l'a plutôt, et c'est quelque chose qui me passionne aussi de la danse et de la porosité en fait que nos corps ont. Et cette pièce en est la démonstration, un peu en un sens de par la pratique, par le corps peut un peu découvrir en soi des potentialités, des capacités expressives, mais ici peut les découvrir, c'est parce qu'il est poreux, c'est parce qu'il est, il est perméable, il est une éponge, il est, bien sûr, il est déterminé, mais il est aussi en chantier.
Et quand vous parlez justement de porosité, moi j'ai été enchantée du nombre d'images auxquelles je pouvais avoir accès, donc une Soufflette extrêmement bien réussie, devant votre pièce, François Chéniaud. Alors je disais, oui, des troupeaux de brebis au crépuscule, plein de nonnes qui se dépêchent comme ça dans un monastère à l'aube, ou alors des rochers aussi, ou des prairies. Est-ce que ça, ce sont des visions que vous maîtrisiez, ou c'est des visions que vous avez laissées affleurer?
J'aime beaucoup qu'on parle du mot vision, c'est vrai, je me rends compte qu'on l'utilise beaucoup le début de notre conversation. Et je vous disais, avec Marie-Pierre Brébant, là on vient de créer cette pièce autour de Hildegarde. Et Hildegarde d'Hobbingen, au XIIe siècle, elle compose sous l'effet de la vision. Et c'est aussi un moment où il n'y a pas la figure de l'auteur ou de l'artiste. C'est pas du tout le même écosystème de pensée, d'expression, qui fait qu'on peut avoir quelqu'un qui vient ici et dire qu'il est artiste. C'est pas du tout le même monde, évidemment. Et elle, à la fois, peut-être stratégiquement ou de manière très sincère, elle affirme être
Elle traduit, en fait.
Elle a des visions, et qui sont des visions à la fois sonores, visuelles. Et ça m'a beaucoup fasciné, parce que je me disais, mais nous, est-ce qu'on pourrait pas aussi en avoir des visions? Est-ce que c'est un... Et c'est vrai que j'ai parlé de visions, j'ai eu un peu peut-être c'est en effet comme des visions au niveau des costumes. Mais ensuite, je dirais que le travail, il s'est fait quand même de manière beaucoup plus empirique et par la pratique. Et c'était aussi ça que l'enjeu de la pièce, c'est que tout ce qu'ils font nécessite beaucoup de pratique, en fait. Et c'est de la pratique répétée qui peut-être fait écho aussi, c'est vrai, aux règles dans certains monastères, où en fait il y a des pratiques, qu'elles soient méditatives ou de travail ou de chant, qui sont répétées inlassablement.
Et rigoristes aussi, quand même.
Rigoristes, ouais. Donc nous, on n'était pas dans cet esprit rigoriste, mais en tout cas, je sens que dans beaucoup de mes pièces, c'est la pratique, c'est l'empirisme d'une pratique très spécifique qui nécessite un apprentissage. Et c'est de cette pratique, en fait, que surgissent les formes et même souvent les enjeux esthétiques, et ça précède pas, en fait.
Mais ça veut dire que, par exemple, quand aussi des motifs de peinture apparaissent, quand des choses, même du cinéma, par exemple, arrivent, c'est comme si la machine avait très bien tourné sur elle-même et qu'une étincelle se produisait. C'est pas vous qui allez semer des références picturales dans
Alors,
la pièce de manière
consciente.
On a quand
même partagé, ouais, on a partagé des statuaires, on a partagé des postures, des images qui ensuite, bien sûr, viennent aussi organiser le corps. Mais c'était plutôt pour organiser une posture, organiser un rapport au poids, organiser un rapport d'équilibre entre les différents membres, plus que pour présupposer de l'effet de référentiel de que ça va avoir. Mmh. Ouais. Et pareil avec le dernier tableau, c'est-à-dire bien sûr il y a une vision très effectiste en un sens où j'ai suggéré à Romain Bro, le couturier, de construire des costumes de fleurs pour créer des ikebana vivants. Donc c'est comme si pour le coup on partait d'abord de l'image avant la pratique. Mais en fait, une fois qu'on a eu les fleurs, il s'est surtout beaucoup agi de les porter et de comprendre, bah, quand j'ai ces fleurs, alors.
Mais c'est plus prosaïque.
C'est très prosaïque. Et surtout, on se disait, bah, si, moi, j'ai, parce que tout le monde a des costumes différents. Donc, une avait, par exemple, juste, comme une robe d'arceau avec juste des fleurs, comme un squelette de robe à crinoline. Et du coup, bah, c'était, on voyait le costume et on se disait, bah, on expérimente ce que le costume nous induit. Et ensuite, à partir de là, bien sûr, il y a un travail de composition qui intervient, mais qui est dans un deuxième temps, et je crois que c'est pour ça que je voulais commencer par des pratiques de chant et de rythme qui pour exister présuppose une pratique très insistante et endurante.
On a parlé, ça fait plusieurs fois qu'on prononce ce mot-là de ikebana et ikebana vivante. Alors c'est quoi?
Bah, l'ikebana, c'est l'art du bouquet japonais, de reconstituer de manière artificielle une nature un peu idéale. Et donc là, c'est pas vraiment, disons que c'est plutôt comme un bouquet énorme et inter-espèce.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la pratique de l'ikebana utilise aussi le reflet et pas des vases forcément qui mettent les bouquets en hauteur, et que tout le sol de votre pièce, François Chéniaud, est sorte de lac noir argenté qui reflète aussi les bouquets et les corps ou les grosses laines dans le premier plateau. Comment vous avez choisi cette matière-là pour le sol?
En fait, c'était assez clair aussi que j'avais jamais dansé sur des tapis miroitants, et c'est quelque chose qui me semblait assez magique. Et aussi, mais je crois que le tapis miroir, il vient d'un autre type de réflexion. On va un peu dévier, mais quand Carte Blanche m'a invité, il venait de faire pendant quatre.
C'est la compagnie.
Ouais, il venait de faire quatre ou cinq années de création. Dans des esthétiques très austères, qui s'affichaient comme un ballet contemporain, et donc qui refuse le costume, qui refuse l'artifice, et dans des physicalités très liées à des improvisations, très autogénérées, et qui me semblait à la fois super passionnant d'une compagnie nationale, mais en même temps avec le risque que ça devienne aussi un genre en soi, un style. Et j'avais proposé à Abigail Flower, qui a fait la lumière, que je rêvais qu'à l'inverse on fasse une pièce vraiment très fantastique presque, où on voit pas les sources de lumière, où le sol soit effectivement un lieu de réflexion qui puisse évoquer l'eau, ou qui puisse évoquer le miroitement, et qui du coup surtout permet de réfléchir beaucoup la lumière, peut créer des ambiances et des humeurs très différentes de celles d'un plateau nu, tapis noir, éclairage de service.
François Chéniaud, on entend un extrait, on va dire la fin quand même, de Soufflette, qui est une reprise polyphonique d'un titre qui s'appelle Killing Me Softly, très connu dans l'interprétation donnée par les Fugees. Et au-delà de la beauté de cette reprise et de la manière dont, en effet, la polyphonie qu'on attache à un certain monde se déplace vers un autre monde, des interprètes noirs, des musiciens noirs, après Bob Marley, c'est aussi ce que ça dit. Le killing me softly, le fait d'être tué doucement. Et moi, je sais que dans les visions, pour continuer à parler de ça, avec lesquelles j'ai eu affaire, il y avait beaucoup de choses qui étaient justement entre la mort et la vie. C'était beaucoup de purgatoire, beaucoup de choses entre les deux. Alors, on a beaucoup parlé des nonnes, mais j'ai aussi pensé au cercle de l'enfer de Dante ou à des espèces de zones assez intermédiaires où les corps ne sont peut-être pas complètement vivants, pas complètement morts, de même pour les fleurs coupées des bouquets, d'une certaine manière, qui ont été coupées du sol, donc mortes, en même temps continuer d'être rendues vivantes parce qu'on les met dans l'eau. Comment vous vous situez? Est-ce que ça vous parle justement, cette idée-là, de la mort douce, de cet entre-deux, ouais, tranquille c'est... en même temps?
Non, c'est
bonne
vrai,
circulation.
C'est assez beau comme image, et je pense qu'une image, moi, qui me revient souvent, c'est comment... C'est vrai que la danse, qui est tout le temps pensée comme un art du vivant, de l'instant présent... En fait, il peut aussi avoir une puissance très nostalgique du fait de la... Si on imagine qu'en fait, quand on danse, on se fait visiter par des fantômes. Et visiter là, en l'occurrence, par le passé aussi. Et c'est vrai que aussi le fait qu'il y ait des costumes très lourds qui nécessitent beaucoup d'efforts, je crois que ça m'intéresse beaucoup de créer des corps où il y a à la fois une partie très vivante, très dansante, très... positive, très qui prend l'espace, qui se dessine, qui se orne, mais en même temps une partie morte, une partie inerte, une partie lourde, et qu'en fait quand on danse c'est aussi ne pas masquer l'effort en fait que suppose le fait que quand on danse avec toutes les parties encore en forme de nous, mais on danse aussi avec
les parties crevées, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai, les parties en train de s'éteindre ou les, et je dis parties, ça peut être très anatomique, mais c'est aussi métaphorique, et je trouve ça inspirant, émouvant de aussi faire danser ces poids morts, mais et pour moi c'est aussi lié à ce rapport à l'histoire et à creuser aussi à forer dans le passé et pour y voir à la fois oui peut-être des squelettes encombrants mais aussi des idées ou des principes qui peuvent être en fait désaliénants,
vivifiants, émancipateurs.
Ouais. Et c'est vrai que toute cette période, disons, qui précède les Lumières, la période médiévale européenne, elle me semble passionnante parce qu'elle vient perturber tellement de toutes les fondations de notre monde actuel. Et en même temps, c'est la même géographie qui a produit ça. Et c'est pour ça qu'avec Soufflette, avec la pièce qu'on a fait avec Marie-Pierre Brémond autour d'Hildegarde, ça m'intéresse de creuser autour de tout ce que raconte cette époque et qui est aussi une époque où effectivement il y a un ordre global qui est très différent de celui d'aujourd'hui, un rapport aux correspondances entre les expressions mais aussi entre les règnes en un sens si on peut dire qui je trouve est très libératrice et très qui a beaucoup à nous apprendre, en fait, j'ai l'impression, aujourd'hui, qu'on peut trouver beaucoup d'outils en
tendant l'oreille de ce côté-là.
En tendant l'oreille de ce côté-là, ouais.
Cette pièce-là, dont vous avez parlé depuis tout à l'heure sur Hildegarde, elle se verra quand et où? Vous savez déjà?
Alors, on vient de la créer au Kunsten Festival, et ensuite, les premières en France, ce sera au Festival Musica à Strasbourg, puis à la MC93 à Bobigny, cet automne.
MC93, on pourra donc voir Soufflette les 12 et 13 juin prochains dans le cadre des rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. Il y a plein de choses au programme. Je vous invite évidemment à aller vous renseigner et vous rendre dans ces différents lieux du département pour voir et vivre de la danse. C'est toujours une joie. Et puis on pourra aussi voir Soufflette au CCN de Caen le 18 novembre et à plein d'autres endroits. C'est à venir, quoi, cette tournée.
Ouais, mais c'est donc c'est carte blanche, c'est le ballet norvégien qui gère la pièce et qui la maintient en vie.
Donc maintenant c'est entre leurs mains.
Ouais, c'est entre leurs mains, c'est je peux plus rien faire.
Merci beaucoup François Chaigneau.
Love the cold, love the way you're waiting. I love your kind patience. Dust and mortar, mortar and dust, mortar and dust. We never know how much. Did you think I'd leave you here forever? Oh no, 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 no. Just a mortal, mortal and dust, mortal and dust.
À la prise de son ce soir, c'était Pierrick Charles, à la réalisation Lise-Marie Barret. Un grand merci à Valentin Rémy, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et un spécial merci à Camille André. Par les temps qui courent, franceculture.fr pour toutes les références et le podcast. Dans un instant, c'est le journal France Culture 22h et on se retrouve lundi prochain.
Mortal and dust. No. Lamo. Namo. 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 La 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 la. Understand water, water, water.